espèce d'écœurantite aiguë envers le fait qu'on paye plus de taxes, on paye plus d'impôts, mais qu'on ne voit pas d'amélioration dans nos services. Puis, tu le sais, là, moi, j'aime ça être nuancé, j'aime ça aller dans les zones de gris, puis tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais dans ce cas-ci, là, sérieusement, nommez-moi un endroit où j'ai l'impression d'en avoir de plus en plus pour mon argent. C'est pas en santé. C'est pas dans les dossiers informatiques, avec des dossiers comme ça clique. C'est pas avec le fédéral dans l'octroi de permis ou de ne serait-ce que régler ses propres problèmes de paye à l'interne. Donc, les salaires augmentent, le nombre de postes explose autant au fédéral qu'au provincial, et au final, c'est au mieux le statu quo. Et mais ça, je pense vraiment que les gens sont de plus en plus tannés de ça.
Prends l'exemple en éducation.
Oui.
Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, veut implanter pour la prochaine rentrée scolaire le cours de culture et citoyenneté oui. québécoise. Là, Bernard Drainville dit, c'est sûr que je recule pas, puis ce sera fait. Tu retournes de bord, le syndicat dit, faut qu'il arrête, faut qu'il repousse ça dans le temps, on n'est pas prêt. La formation n'a pas été donnée. Il n'y a pas assez de profs qui sont formés pour... Pourquoi c'est toujours compliqué, c'est long, c'est pénible? En éducation, en santé, c'est toujours pareil.
Est-ce qu'on va avoir des poursuites là aussi en passant dans ce dossier-là? Parce que moi, je me souviens d'une époque où les syndicats avaient poursuivi le ministre de l'Éducation, qui était Sébastien Poux, si je me souviens bien, pour l'implantation du cours d'économie. Il y avait, au lieu de collaborer, puis disons, on va se retrousser les manches, puis s'assurer que ça se fasse le plus rapidement possible, former les gens, il y avait poursuivi le ministre. J'espère qu'on n'ira pas là dans ce dossier-là aussi, là.
Non, mais attends que des parents aussi décident de poursuivre pour le contenu qui sera offert aux étudiants. Oui. Ça, moi, je te dis, j'ai déjà des petits drapeaux qui se lèvent dans le paysage. Un mot sur un projet de loi que M. Legault a évoqué hier, là, à venir, c'est le projet de loi Maureen Brault, évidemment, c'est l'information qui sera fourni aux policiers pour les gens là qui sont jugés inaptes et qui se retrouvent en liberté.
Exactement. Donc, donner plus d'informations aux policiers sur les dossiers des personnes reconnues non criminellement responsables pour cause de troubles de santé mentale et qui auront été libérées par la commission d'examen des troubles mentaux. On me dit que François Bonnardel travaille le dossier depuis un bon moment en collaboration avec Lionel Carman et Simon-Jolin Barrette. Il y a des responsabilités qui sont partagées là-dedans et que ça devrait être déposé avant la fin de la session parlementaire. Je trouve que c'est un pas dans la bonne direction de mieux protéger nos policiers. Je pense qu'on doit souligner la proactivité de François Bonnardel là-dedans. Par contre, je soulève deux questions. Premièrement, pourquoi ne pas attendre les recommandations de la coroner Jeanne Gamel qui va livrer son rapport à l'automne? À cela, on me dit que la représentante du gouvernement avait déjà dit lors de l'enquête publique que le gouvernement avait des intentions de déposer un projet de loi en ce sens-là. Semble-t-il que ça avait déjà été bien accueilli par Mme Gamel. Puis au gouvernement, on me dit s'il y a d'autres choses à faire, on n'hésitera pas, c'est un travail en continu. Ma deuxième question, c'est, oui, j'en suis évidemment protéger mieux nos policiers, mais qu'est-ce qu'on fait pour mieux protéger le commun des mortels? Parce que des fois, dans des cas comme ça de gens qui ont été libérés malgré des problèmes de santé, malgré des antécédents, je comprends que des policiers peuvent être à risque, mais des fois, c'est le père, la mère, le grand-parent, la grand-mère, le voisin, le jogger qui a le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Je pense que la question se pose, ces gens-là, on fait comment pour mieux les protéger? Mmh. Pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que ce qui va être mis en place par le gouvernement pour mieux outiller les policiers, ben ils ont l'impression que ça va permettre aux policiers de l'autre côté de mieux protéger les gens, par exemple, d'intercepter du monde, de faire ajouter des conditions et tout ça. Mais je pense qu'il y a une partie quand même du problème qui demeure entière.
Merci, monsieur.
Salut.
Vous allez en entendre parler à CFIX FM 93.
Réveil Rimouski à CFIX FM 93. Rumeurs, nouvelles régionales, réseaux sociaux, sport local, opinions et commentaires. Rimouski et l'Est du Québec. Réveil Rimouski et votre émission d'information du matin.
Il est 9h19 minutes. Jean-François Lévesque, bonjour et bienvenue à la chronique automobile.
Bon matin, Michel.
Voilà, aujourd'hui, tout un sujet. C'est un sujet qui a été développé aussi par TVA en fin de semaine. Notamment, là, on parle de chronique automobile, mais on parle de financement. On en parle aussi avec nos amis d'Ash Grégoire les vendredis. C'est pas simple dans le monde de l'automobile de ce temps-ci. Et le reportage de TVA là, nous a mis en lumière un phénomène phénomène là, qui est en train de se développer, qui bat son plein, d'ailleurs, à peu près dans toutes les régions du Québec, c'est les remises volontaires d'automobiles.
Absolument.
À cause des difficultés de paiement.
Justement, ce matin, on a M. David Tessier, qui est huissier de justice avec nous. On va pouvoir discuter du phénomène. M. Tessier a fait partie du reportage qui a passé au National, autant à LCN qu'à TVA.
Oui.
Concernant la situation. Puis quand on parle d'automobile, on parle souvent de véhicules de grosses valeurs. On parle souvent de taux d'intérêt, de magasiner comme il faut. Là, on est rendu à un point où ce que les finances personnelles sont de plus en plus
serrées,
complexes. Donc, on essaie de couper là où on peut. Donc, c'est ce qu'on va jaser avec M. Tessier.
Monsieur Tessier, bonjour.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, très, très bien, M. Tessier. Bienvenue sur Réveil Rimouski, bienvenue sur CFIX. C'est la première fois qu'on se parle. Vous êtes huissier de justice chez l'évêque, huissier de justice sur la rue Cathédrale à Rimouski. Et vous avez fait parler de vous en fin de semaine, M. Tessier, ces remises volontaires et aussi ces saisies de véhicules automobiles qui sont monnaie courante. Ça occupe la majorité de votre temps, semble-t-il.
Oui, effectivement. Depuis les dernières années, là, ça a augmenté beaucoup. Puis c'est ça, avec nos bureaux, j'ai l'impression qu'avec le reportage aussi, les données étaient basses, je trouvais, pour le 30% des cris. Là.
Oui.
On est le plus gros bureau à l'est du Québec, en fait. On fait Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. J'ai l'impression qu'on a une meilleure idée du hausse qu'un syndic, par exemple. Moi, je pense qu'on est plus à 60% que 30% là, de hausse. Wow. Ça a vraiment explosé. Puis là, je parle en un an. Je parle pas depuis 4 ans. Là.
Oui.
Je parle depuis l'année passée. La hausse est majeure. Où est-ce que c'est rendu que des fois, je pars dans ma journée puis je ne fais que ça.
Est-ce qu'on a le sentiment que c'est une réalité régionale ou c'est étendu au Québec?
D'après moi, justement, si on se fie à la tendance, nous, le réseau qu'on a est assez gros pour dire que c'est à travers le Québec, en fait. Puis je pense qu'on peut l'estimer que c'est la même hausse partout au Québec, étant donné que le secteur qu'on couvre est assez grand pour se donner une bonne statistique, là.
Puis comment ça se passe du côté des reprises dues au défaut de paiement? Dans le reportage, on parlait beaucoup des remises volontaires. On voit qu'il y a une augmentation drastique, donc les gens prennent la décision d'eux. Mais de votre côté, dans votre métier, il y a aussi les reprises dues au défaut de paiement. Comment ça se passe de ce côté-là?
Vous voulez dire sur le terrain, dans le fond?
Oui, exact.
OK. C'est très, très simple comme procédure. Nous, on se présente au domicile de la personne, puis avec une signature, c'est terminé. Là, on leur donne une quittance, on fait remorquer, puis on gère la paperasse de notre côté par la suite. Là. Souvent, les gens même, ils sont sceptiques, ils ont peur de se faire arnaquer tellement c'est simple comme procédure. Là.
Oui.
Oui, puis de ce côté-là, justement, on veut pas donner l'idée à personne, mais il doit avoir des personnes mal intentionnées qui ont ce mode de vol-là ou d'arnaque-là. De votre côté, qu'est-ce qui peut vous identifier? Mettons, quelqu'un achète un véhicule, il y a une reprise due mauvaise créance. Sûrement que vous êtes déjà annoncé. Comment ça fonctionne?
Non, en fait, c'est ça, parce que ça, c'est un recours. Pas un recours judiciaire, là. Ça passe pas par le tribunal. Et c'est comme à l'amiable entre le prêteur et le débiteur. Donc, la banque nous donne le mandat, puis moi, je me présente à la porte. La personne n'a aucune idée que je m'en viens cette journée-là. Là. Mais elle est très au courant qu'elle est en retard sur ses paiements. Là. C'est une option qu'on lui donne avant que la justice embarque.
Oui, puis on peut penser que ça touche particulièrement quoi les personnes qui ont acheté dernièrement leur véhicule pour ce qui est des remises volontaires, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Mon analyse, est-tu la bonne?
Oui, je pense qu'il y a une grosse partie que c'est dû à ça, mais on en voit souvent des gens que ça fait 4 ans qu'ils payent le véhicule, puis qu'ils ont de la misère, il est arrivé une malchance quelconque avec leur maison, séparation, ce genre de choses-là. Puis c'est souvent les dossiers les plus compliqués.
Ouais.
C'est quand quelqu'un ça fait longtemps qu'il paye son véhicule, il y a la moitié de payer. Puis là, moi, je lui offre qu'il le remette pour une quittance, là, ils essaient de s'en sortir un peu plus, là, ils se débattent un petit peu plus.
Oui, puis qu'est-ce qui arrive au véhicule, un coup repris, un coup remis?
Un coût remis, je vous dirais, en 90% des cas, ça s'en va à l'encan. Eux, ils coupent les pertes le plus qu'ils peuvent. Ils vont rechercher le plus d'argent qu'ils peuvent avec le véhicule. Puis leur intention est souvent de ne pas poursuivre la personne qui est souvent insolvable. Donc, ça s'en va dans des encans à Québec et à Montréal, les plus gros de la région. Puis, ils vendent au meilleur prix qu'ils peuvent.
Monsieur Tessier, dans le reportage sur LCN et TVA en fin de semaine, on voyait que c'était généralement des véhicules de luxe. Est-ce qu'il y a des gens, là, faudrait peut-être pas le dire trop fort, mais qui, vivent peut-être un peu au-dessus de leurs moyens, là, lorsqu'on s'achète là, des pick-up électriques à 125 000 $ et des choses comme ça, et qu'on se fait saisir ça par un huissier après quelques mois?
Ça, c'est des. Dans le reportage, ma partie a pas été annoncée, mais je suis pas d'accord avec ça du tout. Là.
Ah bon?
Les véhicules de luxe, habituellement, on les reprend pas volontairement parce qu'ils ont tellement une grosse valeur que le débiteur finit par s'arranger avec son prêteur pour arriver à une entente okay. sans passer par le huissier. C'est vraiment des véhicules qu'on là, on est sur la ligne de est-ce que c'est rentable de le reprendre ou non. Fait que souvent c'est entre des véhicules de 2016 à 2020. Oui, ça arrive là, qu'on va reprendre un F-150 2023, là, ça, je veux dire. Mais c'est vraiment une minorité des cas. Là.
OK, parce que dans le reportage, on avait l'air à montrer ça. Il y avait une plate, là, ouais. une remorque, puis on voyait ce qu'il y avait dessus, et puis ça ressemblait à ça. Là.
Mais c'est ça, j'ai trouvé que ça le dépeint un peu. Moi, c'est vraiment pas l'impression qu'il me donne. Je ramasse beaucoup de berlines bien ordinaires, des Civic, des Toyota, puis des Honda.
Là. Oui, voilà. Donc, ce qui est triste dans le domaine, là, vous êtes huissier, vous savez qu'on commence par l'automobile, mais ça peut aller plus loin aussi. C'est la maison, bien souvent, qui peut finir par y passer si les paiements. Et puis, on mentionnait dans le reportage aussi que les banques étaient peut-être moins patientes qu'avant et moins d'arrangements aussi qu'avant.
Oui, c'est ça. En fait, on l'a vu. Les remises volontaires ont explosé en même temps que les expulsions. Là. On en avait, ça remplissait de nos semaines aussi les expulsions de logements et de maisons. Puis pour ce qui est des banques qui sont moins patientes, oui, ils prennent plus d'entente de paiement. En fait, c'est si les gens ne remettent pas leur paiement à jour, il n'y a pas d'autre option à faire. Ils vont directement en justice par la suite.
Parfait. Puis, de mon côté, je voulais savoir, ça arrive-tu parfois où quelqu'un particulier, par exemple, achète un véhicule, puis du jour au lendemain, un huissier se présente pour le saisir, puis il y avait encore une créance qui était non réglée de l'ancien propriétaire à qui le véhicule appartenait? C'est-tu le genre de scénario qui arrive de temps en temps aussi ici?
Ça arrive de temps en temps, oui. C'est pourquoi c'est vraiment important de vérifier le RDPRM quand on achète un véhicule. Voir s'il y a une créance sur ce véhicule-là, parce que la créance suit le bien, en fait. Donc, peu importe, ça passe de quelle main à quelle main. Si le véhicule, les paiements sont arrêtés, la banque peut aller rechercher le véhicule, peu importe où il se trouve à ce moment-là, oui.
Puis le RDPRM, lui, comment on peut faire pour vérifier ça?
En fait, directement sur Internet, je pense que c'est des coûts de 2 $ pour vérifier un véhicule. Puis c'est vraiment très intuitif. Là. C'est très, très facile de vérifier.
2 $
pour voir c'est qui l'institution financière.
2 $ pour sauver un gros problème. Je pense que c'est pas cher à payer, en effet.
Oui.
Oui, exact.
Donc, allez-y.
Est-ce qu'on peut acheter un véhicule comme ça qui est grevé d'une dette là chez un concessionnaire, chez un marchand de véhicules usagés?
C'est impossible. En fait, okay. C'est possible, mais c'est complètement illégal. C'est illégal même entre particuliers. Oui. Là. On n'est pas censé vendre un véhicule qui a une dette d'inscription bon. Dessus.
Donc, ça se produit généralement là dans les ventes entre particuliers, ça?
Oui, à 100% des bains. 99,9% des cas, oui.
Donc, je crois qu'avec cette augmentation-là, ça va finir aussi par avoir une incidence sur le prix des véhicules, étant donné que là, on remet des véhicules disponibles, ça va augmenter le volume de véhicules disponibles à l'achat, donc potentiellement faire chuter les prix. On peut-tu y aller avec une réflexion de ce genre-là, vous croyez?
J'ai l'impression que oui, que l'achat est déjà aux véhicules usagés en priorité, vu les taux d'intérêt et l'inflation, là. Juste le coût des nouveaux véhicules de 2024, on le voit tout de suite que c'est assez exorbitant. Donc oui, je pense que le marché usagé est très priorisé en ce moment.
Oui.
Parfait, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce matin, c'est très intéressant.
Merci, M. Tessier, au plaisir.
Merci, au revoir.
Voilà, donc David Tessier de la maison, donc l'évêque, huissier de justice, présent partout à travers le Québec. Oui, c'est épeurant lorsqu'on voit ça, ouais. Jean-François. Ah, ouais. Effectivement, donc on est mieux de faire ses paiements parce que les banques sont moins patientes qu'elles ont déjà été.
Oui, puis là, on parle des reprises, mais tu sais, principalement, il y a aussi les remises volontaires. Là. Ouais. Ça veut dire que les gens sont assez conscients pour savoir qu'ils ont des enjeux au niveau financier, puis qu'ils peuvent couper sur quelque chose qui a une grande valeur, qui a un impact pesant.